VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier, Anna Butson. Au sommaire, en ce jeudi 18 juin 2015,
suite au double attentat suicide de lundi à N'Djamena, le Tchad annonce l'interdiction du port de la burqa et du niqab qui cachent intégralement le visage.
Les femmes musulmanes au Tchad ne savaient pas ces burqas avant. C'est une idéologie nouvelle. Dans certains pays arabes du Golfe qui portent ça, et c'est pas avec ce niqab que la personne sera musulmane.
Abdeldaïm Abdoulaye, secrétaire général du Haut Conseil des Affaires islamiques du Tchad.
En République démocratique du Congo, nouvelle condamnation pour des adeptes de la secte de Paul Mukun Gubila, accusés de subversion contre le régime de Kinshasa.
Tout cela s'est passé au cours d'une procédure expéditive avec la détermination des condamnés et des innocents.
Eddie Sango a recueilli le témoignage du coordonnateur du collectif de la défense des membres de la secte, Sylvain Lumu.
Ici aux États-Unis, fusillade dans une église en Caroline du Sud, les médias parlent d'au moins 9 morts.
Et le président Barack Obama a salué le début du Ramadan 2015 dans la majorité des pays musulmans de la planète.
Pour commencer, le journal.
Les autorités tchadiennes ont annoncé mercredi l'arrestation de plusieurs suspects dans le cadre de l'enquête sur les attentats suicides commis lundi à N'Djamena. Ces violences ont été imputées à la milice islamiste nigériane de Boko Haram.
Le bilan du double attentat est désormais chiffré à 34 morts. Selon le ministre tchadien de l'Intérieur, Abderrahim Birem Hamid, 5 à 6 suspects ont été arrêtés. Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé que le port de la burqa serait désormais interdit par mesure de sécurité. Des dizaines de membres d'une milice d'autodéfense nigériane ont été tués quand un sac rempli de bombes artisanales a explosé dans le nord du pays.
Ces miliciens auraient trouvé le sac rempli d'objets métalliques dans un camp abandonné par Boko Haram. Ils l'ont ramené à la ville de Monguno. Les objets ont explosé mardi alors même que des habitants s'étaient rassemblés pour examiner le contenu du sac.
Au Mali, 5 membres d'un groupe armé ont été tués mardi au cours d'un accrochage avec l'armée malienne près de Mopti dans le centre du pays. Le bilan est de 5 morts du côté des terroristes et un soldat malien a été blessé, a annoncé un porte-parole du ministère de la Défense cité par l'agence Reuters.
Les autorités n'ont pas précisé à quel groupe les rebelles appartenaient. Selon une source militaire, il s'agirait d'un mouvement Peul formé récemment et baptisé Front de Libération du Massina.
Le Ramadan 2015 débute jeudi dans la majorité des pays musulmans de la planète, à l'exception du Pakistan où il commencera vendredi. À cette occasion, le président américain Barack Obama a salué tous ceux qui vont jeûner ici aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Il s'est félicité à l'avance de pouvoir accueillir à la Maison Blanche des représentants de la communauté musulmane des États-Unis pour un dîner d'iftar, rupture du jeûne de Ramadan.
3 Mauritaniens qui avaient été arrêtés en octobre pour lien présumé avec le groupe État islamique ont été condamnés à des peines allant de 5 à 10 ans de prison, indique l'agence France-Presse. Des précisions avec Georges Léonard Sagnon.
Les condamnations ont été prononcées mardi soir par un tribunal de Nouakchott. Les hommes comparaissent pour appartenance à une organisation terroriste et détention de matériel de propagande terroriste. Tous les 3 ont plaidé non coupables. Durant l'audience, le procureur a fait visionner une vidéo dans laquelle il prêtait allégeance au groupe État islamique. Les inculpés ont été arrêtés en octobre 2014 à Zouarette, dans le nord du pays. La Mauritanie a subi ces dernières années des attaques djihadistes, dont des attentats et des enlèvements meurtriers. Elle a engagé des opérations militaires sur son sol et également sur le territoire du Mali voisin en 2010 et 2011. En mars dernier, le président Mohamed Ould Abdelaziz a déclaré qu'il n'y avait plus de terroristes en activité sur le sol national et qu'ils ne pouvaient même plus s'approcher des frontières de la Mauritanie.
Les casques bleus des Nations Unies font face à des défis de plus en plus importants s'agissant du maintien de la paix et de la sécurité, a déclaré mercredi le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, il a salué le courage et la détermination dont font preuve notamment la mission de l'ONU au Soudan du Sud et la mission de stabilisation multidimensionnelle intégrée au Mali.
Hervé Latsou a évoqué les défis croissants auxquels les casques bleus sont confrontés, particulièrement au Soudan du Sud où la crise a provoqué le déplacement de plus de 2 millions de personnes et a plongé environ 4,6 millions d'autres dans une insécurité alimentaire sévère. Il a d'ailleurs fustigé le comportement du président sud-soudanais Salva Kiir et de son gouvernement pour avoir rejeté à de nombreuses reprises des requêtes de la mission de l'ONU qui demandait à utiliser les équipements nécessaires pour protéger les civils.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 31 morts et une vingtaine de blessés hier dans une série d'attentats anti-chiites à Sanaa, la capitale du Yémen. Des détails avec Eddie Isango.
Les cibles visées par les 5 explosions simultanées d'hier, la maison du chef du bureau politique de la rébellion Houthi et des mosquées. Des témoins qui citent l'AFP affirment que les engins explosifs avaient été placés à l'entrée de ces mosquées et avaient explosé à l'arrivée des fidèles pour la prière. L'une des mosquées et une autre avaient déjà été visées en mars dernier par des attentats revendiqués par les groupes État islamique qui avaient fait 142 morts. Les attaques d'hier interviennent alors que des pourparlers indirects se poursuivent à Genève entre les rebelles chiites, houthis, qui occupe Sanaa depuis le mois de mars et le gouvernement yéménite en exil. En dépit des raids aériens de la coalition menée par l'Arabie saoudite, les rebelles ont poursuivi leur progression, occupant en grande partie Aden, la deuxième ville du pays, ainsi que diverses provinces. Selon l'ONU, les combats au Yémen ont fait plus de 2600 morts depuis fin mars.
En Irak, Washington souhaite que Bagdad envoie plus de recrues dans les camps d'entraînement militaires ouverts par les États-Unis et la coalition contre le groupe État islamique en Irak. Telle est la position exprimée mercredi par le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter. Le point avec Félix Yepassis Zembrou.
Le plan était de former 24 000 membres des forces de sécurité irakiennes d'ici l'automne. Mais seulement 7 000 ont été recrutés jusqu'à maintenant, auxquels s'ajoutent 2000 forces antiterroristes, a regretté le ministre de la Défense devant la Commission des forces armées de la Chambre des représentants. M. Carter et le général Martin Dempsey, le chef d'état-major interarmé, n'ont pas exclu que des soldats américains puissent aller plus loin dans le soutien aux troupes irakiennes. Mais cela suppose d'abord que l'armée irakienne fasse ses preuves dans les combats contre le groupe État islamique, ont-ils expliqué. Le président Barack Obama vient de décider d'envoyer 450 soldats américains supplémentaires en Irak, portant le total des troupes américaines sur place à 3550. Ces militaires ne s'approchent pas des zones de combat, se cantonnant à des missions de conseil et de formation. Les renforts, comprenant 50 conseillers militaires, seront déployés sur la base aérienne d'Al-Takadoum, le quartier général irakien pour la reconquête de la ville de Ramadi et la province sunnite d'Al-Anbar.
Ici aux États-Unis, au moins 9 morts suite à une fusillade. Un jeune homme blanc a ouvert le feu mercredi soir dans une église fréquentée par la communauté noire dans le centre de Charleston en Caroline du Sud. Selon un porte-parole de la police, les faits se sont produits vers 21h à l'église Emmanuel AME, l'African Methodist Episcopal Church. Le chef de la police a précisé qu'il s'agissait d'un crime à caractère raciste. L'auteur de l'attaque, un homme blanc d'une vingtaine d'années, est toujours recherché par la police.
Les ambassadeurs des 28 pays membres de l'Union européenne sont convenus de prolonger pour 6 mois les sanctions économiques contre la Russie en raison de son implication dans le conflit ukrainien. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE devraient ratifier cette décision lors d'une réunion prévue la semaine prochaine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a immédiatement brandi la menace de mesures de rétorsion.
Dans son rapport annuel sur l'économie grecque adressé au Parlement, la Banque centrale de la Grèce a lancé un avertissement mercredi sur le risque de sortie du pays de la zone euro, voire de l'Union européenne, en l'absence d'un accord entre Athènes et ses créanciers.
Cette mise en garde qui précédait la réunion prévue ce jeudi d'un eurogroupe au Luxembourg n'a pas paru troubler outre mesure le ministre des Finances grec Yanis Varoufakis. Selon l'agence Reuters, M. Varoufakis a déclaré déclaré mercredi qu'il n'y aurait sans doute pas d'accord financier entre lui-même et ses partenaires de la zone euro lors de la rencontre.
Et puis après son net ralentissement durant l'hiver, l'économie américaine a renoué avec la croissance et elle est sans doute suffisamment solide pour supporter une hausse des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, estiment les autorités de la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis.
Cependant, le marché du travail suscite encore des interrogations, estime le dernier communiqué de la Fed, publié mercredi. La présidente de la Fed, Janet Yellen, a rappelé que la décision relative au taux d'intérêt dépendra de l'évolution des données économiques et en particulier du marché de l'emploi, dont la situation doit encore s'améliorer. On enchaîne avec la Minute Éco, présentation Claire Morin-Gipour.
Nouvelle usine d'engrais au Togo, avec un investissement de 2 milliards de francs CFA. Cette nouvelle usine pourra produire 2000 tonnes d'engrais par jour. Le groupe français Mambo a choisi Lomé pour sa zone franche et son port en eau profonde. Mambo table sur une couverture régionale. Les engrais seront également disponibles sur les marchés burkinabés, nigériens ou béninois. Le premier forum africain de la finance islamique aura lieu à Abidjan les 17 et 18 septembre prochains, a annoncé la Société islamique pour le développement du secteur privé, filiale de la Banque islamique du développement. Au programme partenariat public-privé en Afrique, collecte des fonds conformes à la charia, développement de la finance islamique ou encore gestion d'actifs sur les marchés mondiaux et africains. Croissance en demi-teinte aux États-Unis. La croissance américaine est en expansion modérée pour la Banque centrale américaine. Un bilan mitigé, car si l'économie a stagné au premier trimestre, le rythme des créations d'emplois aux États-Unis s'est accéléré et le secteur immobilier a montré une certaine amélioration après la crise de 2008-2009. Toutefois, des faiblesses subsistent, l'investissement des entreprises reste faible et surtout, les exportations américaines sont en baisse.
Et maintenant, les sports avec Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Camille.
Le Mali et le Sénégal n'iront donc pas en finale du mondial U20.
Oui, les deux derniers représentants du continent sont sortis lors des demi-finales du tournoi. Les deux voisins qui disputeront la troisième place pour une première à ce stade de la compétition. L'apprentissage a été dur pour les Lionceaux de la Teranga. Sèchement battus 5-0, les Sénégalais n'ont pas pesé bien lourd face aux Oriverdais, quintuple champion du monde de la catégorie. Marcos Guilherme a même inscrit un doublé et propulse le Brésil en finale du tournoi. Les jeunes Brésiliens qui retrouveront la Serbie qui a eu toutes les peines du monde à battre le Mali. L'aventure s'arrête là pour les Aiglons battus dans les prolongations par le but du remplaçant Ivans Sapončić, 2-1. Bravo aux deux derniers représentants de l'Afrique dans cette Coupe du Monde Junior. Ils croiseront le fer ce samedi en jeu. La troisième place du tournoi est la suprématie continentale.
On reparle du scandale de la FIFA et de la CAF qui reconnaît avoir reçu de l'argent du Qatar.
Le Qatar a bien versé 1,8 million de dollars à la Confédération africaine de football. C'était en janvier 2010 pour pouvoir exposer leur projet de candidature au Mondial 2022. C'est ce que déclare le président de la CAF, Issa Hayatou, dans l'hebdomadaire Jeune Afrique. Il nie toute corruption. Était-ce une manière d'acheter les voix des Africains ? Réponse d'Issa Hayatou, non. D'ailleurs, j'ai convoqué immédiatement après le comité exécutif de la CAF pour dire que ce qui s'était passé ne nous engageait en rien. Je n'ai donné aucune consigne et chacun a voté en son âme et conscience.
Et puis la star chilienne Arturo Vidal s'est fait peur en marge de la Copa América.
Après avoir raté la finale de la Ligue des Champions avec la Juventus, le joueur vedette du Chili a été arrêté pour conduite en état d'ivresse après un accident spectaculaire dans Santiago avec sa Ferrari. Le meilleur buteur de la Copa avec 3 buts a passé la nuit de mardi à mercredi au commissariat. Et vendredi, le Chili affronte la Bolivie lors du dernier match du groupe A.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Grodidi avec vous pour présenter les dossiers du jour. Eh bien, suite au double attentat suicide de lundi qui a fait 37 morts à N'Djamena, y compris 4 kamikazes présumés, le Premier ministre tchadien, Kalzebe Paimi Debet, a annoncé mercredi un certain nombre de mesures, parmi elles l'interdiction du port de la burqa et du niqab qui cachent intégralement le visage. Monsieur Debet, qui s'adressait aux leaders religieux du pays, a également instruit les services de sécurité à saisir les stocks de burqa sur les marchés et à interpeller toute personne portant de tels vêtements. Timothée Donongmaï, adjoint à N'Djamena, monsieur Abdeldaïm Abdoulaye, secrétaire général du Haut Conseil des Affaires islamiques du Tchad.
Ce niqab, c'est une civilisation qui est importée et qui n'a même pas mis plus de 20 ans dans ce pays, que les femmes musulmanes au Tchad ne savaient pas ce burqa avant. C'est une idéologie nouvelle dans quelques certains pays arabes du Golfe qui portent ça. Et c'est pas avec ce niqab que la personne sera musulmane. Parce que les gens confondent entre les hijabs et les burqa.
Quelle est la différence?
Recommander hijab, cela veut dire la couverture d'une femme. Elle couvre tout ce qui est la partie entière de la femme, ça fait aura, sauf le visage et les mains. Ça, c'est dit dans la doctrine malikite, la doctrine chafiite, la doctrine aussi hanafi. Sauf dans la doctrine des hanbalites qui est propagé un peu au pays des Golfe, et surtout en Arabie Saoudite, au Koweït, que ces doctrines disent que la femme couvre même le visage. Ce sont des doctrines importées dans notre pays, et ça nous a créé des problèmes. À travers ce burqa, les gens font partir vers la prostitution, les filles et les femmes, et parfois même les hommes se couvrent avec ce burqa pour être une femme et rentrer chez les femmes pour faire la prostitution.
Les autorités ont interdit la burqa et le niqab. Alors, quelles sont les réactions?
Oui, ce qu'ils portent, ça ne leur plaît pas. Mais nous, en tant que leaders religieux au Tchad, on a fait des émissions depuis 2010-13 jusqu'à nos jours que le niqab n'est pas exigé dans beaucoup de doctrines musulmanes. Et ceux qui portent disent que c'est exigé. Nous, on dit non. Nous saluons cette décision, comme je dis.
Les musulmans tchadiens entament le ramadan un peu après ce double attentat à N'Djamena. Quel est le sentiment de la communauté aujourd'hui?
C'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces groupes de gens qui sont appelés les ennemis de l'humanité tout entière, qui font des choses qui n'ont pas liées à une religion. Et nous, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et aussi de nous donner la sécurité totale dans notre pays et en Afrique et dans l'humanité tout entière.
Monsieur Abdeldaïm Abdoulaye, secrétaire général du Haut Conseil des Affaires islamiques du Tchad.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Au micro, Camille Grodidier, en République démocratique du Congo, nouvelle condamnation à Lubumbashi pour les adeptes de la secte de Paul Mukun Gubila, accusé de subversion contre le régime de Kinshasa. 17 lourdes condamnations qui vont jusqu'à 20 ans de prison ont été prononcées après celles de 30 autres membres de la même secte la semaine dernière à Kalemi, dans la même province du Katanga. Un autre groupe d'adeptes de la même secte attend de connaître leur sort à Kinshasa. Le leader de la secte, le pasteur Paul Mukubila, proche de la famille du président Joseph Kabila, a été déclaré innocent pour les mêmes faits dans un tribunal en Afrique du Sud où il s'est exilé. Eddie Sango a recueilli sur le sujet le témoignage du coordonnateur du collectif de la défense des membres de la secte, M. Sylvain Lumu.
Tout cela s'est passé au cours d'une procédure expéditive avec la détermination des condamnés et des innocents. Les adeptes de Paul Joseph Mukun Gubila étaient
en train de prier, en lieu de prière, aux différentes résidences et ils ont été attaqués parce que l'on croyait que le prophète était présent. Il était déjà en dehors de la ville de Lubumbashi. Et c'est d'ailleurs cela qui a entraîné que ceux de Kinshasa ayant pris les attaques qui ont eu lieu aux résidences du prophète, ils ont dû initier une marche qui a été également réprimée dans le sang. Et à Kinshasa, nous avons relevé l'incompétence du tribunal des garnisons à connaître des faits commis par des civils. La procédure a été arrêtée parce que le tribunal devrait sursoir pour soumettre cette question à la Cour constitutionnelle.
Vous parlez d'une procédure expéditive alors que les adeptes de M. Mukungubila ont été arrêtés depuis 2013.
Depuis 2013, ceux des colosiers de Lubumbashi étaient gardés à la prison de la Kasapa. Il n'y avait aucun devoir procédural commis pendant tout ce temps. Le procès n'a été ouvert qu'il y a 2 mois de cela pratiquement. À Kinshasa, c'est la même chose. Ils sont restés pendant 9 mois au moins au secret dans les différents cachots de l'ANR, puis transférés à la prison militaire d'Endolo. Il y a seulement 1 mois que le procès a commencé formellement. Il n'y a aucun procès verbal qui établit que les adeptes de Mukungubila avaient les armes à main, qu'ils auraient acheté je ne sais pas où, pour initier des actes subversifs. Comment est-ce que vous pouvez mettre sur les dos de ces personnes la propriété de certaines armes qui, du reste, sont connues? Il y en a quelques-unes que l'on avait retrouvées dans d'autres procédures. Et donc, on comprend que le mode opératoire demeure le même. On prend des armes ici, on fomente des faits.
À Kinshasa, les adeptes se sont introduits à la chaîne nationale. Ils ont pris en otage des journalistes qu'ils ont obligés de proclamer la victoire de M. Mukungubila aux élections de 2011.
Il y a l'ONG des électeurs qui a publié un rapport dans lequel il est repris même la version officielle des services de sécurité où les services ne reconnaissent pas avoir vu ces gens avec des armes, même des armes contondantes qui pouvaient couper ou égorger.
Maître Sylvain Lumu, il était joint par Eddy Issango.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Que signifie l'affaire Omar El-Béchir pour les relations entre les systèmes judiciaires et les pouvoirs en Afrique? Le gouvernement sud-africain a-t-il violé la constitution en laissant le président soudanais quitter son sol alors qu'Omar El-Béchir est recherché pour génocide par la CPI? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h08.
Camille Grosdidier, pour Le Monde Aujourd'hui, le secteur privé africain a joué un rôle important dans la lutte contre l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Il est à l'origine de l'initiative Africa Against Ebola, l'Afrique contre l'Ebola, lancée en partenariat avec l'Union africaine pour une réponse africaine à cette urgence sanitaire. 37 millions de dollars ont ainsi été mobilisés l'année dernière pour la lutte contre l'épidémie. Timothée Donongmaï a joint à Johannesburg l'économiste ivoirien Karl Manlan, secrétaire exécutif d'Africa Against Ebola.
Les fonds ont servi à faire partir dans les pays affectés des travailleurs de santé, je le dis en anglais, donc des infirmières, des épidémiologistes qui ont permis de renforcer les systèmes locaux en appuyant les travailleurs de santé de la Guinée, de la Sierra Leone et du Nigeria. Donc c'est prédominamment une réponse en plus à ce qui avait été donné. Les bailleurs de fonds habituels avaient permis d'avoir les questions de logistique, les médicaments et autres. Et les Africains se sont dit qu'on pourrait faire la différence en montrant que le personnel de santé africain est qualifié et qu'il peut apporter une réponse dans des situations de crise comme celle que nous connaissons en ce moment dans les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest.
Quelle évaluation faites-vous de cette expérience en Afrique de l'Ouest?
Je pense que l'évaluation est positive parce qu'elle a permis de démontrer déjà la solidarité des Africains par rapport à une situation de crise qui a menacé tout le continent, parce que la perception du continent de par la peur a créé une situation qui devenait insoutenable. Donc le fait que des Africains soient partis de manière volontaire vers les 3 pays qui étaient affectés montre aussi que l'Afrique peut donner des réponses effectives aux problèmes auxquels l'Afrique fait face. Donc je pense que le moment viendra où on aura une évaluation complète. Donc je préfère juste donner des éléments qui apportent une réponse plutôt simple pour le moment, mais je pense qu'on aura l'opportunité, avec une évaluation indépendante, de montrer que la réponse qui a été coordonnée par l'Union africaine avec le soutien du secteur privé africain en train de changer la donne dans la conception, même de la réponse aux urgences africaines en question de santé.
Allez-vous répondre uniquement aux crises ou bien pensez-vous intervenir dans d'autres situations?
Je pense que l'expérience qu'on a tirée et les leçons qu'on tire de cette situation, c'est que l'Afrique peut, dans le futur, avoir une force de réponse rapide dans le domaine de la santé, qui permettra pas nécessairement de répondre aux situations de crise, mais pour éviter que des crises deviennent des épidémies. Et donc je pense que dans le cas des trois pays, si on avait eu un système de surveillance de santé qui nous permettait d'avoir les informations à temps, on ne se serait certainement pas retrouvé dans cette situation. Donc je pense qu'il y a une vraie opportunité pour les 850 travailleurs de santé qui sont partis dans ces trois pays de continuer à être formés. Et c'est là que je pense que le secteur privé a encore un rôle à jouer, en contribuant un peu plus au fond, et vous assurer que ces 850 personnes deviennent en fait une force de réserve dans les questions de santé, et pas nécessairement pour les questions d'urgence, mais pour pouvoir aussi aider dans d'autres missions auxquelles l'Afrique sera confrontée dans le futur.
L'économiste ivoirien Karl Manlan, secrétaire exécutif d'Africa Against Ebola, il était joint à Johannesburg.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Camille Grosdidier qui vous accompagne pour Le Monde aujourd'hui. Aux États-Unis, alors que la population des grandes villes du pays change, la croissance dépend en partie des émigrés qui viennent ici légalement. Mais voilà, à Chicago, dans le Midwest, une baisse dans le nombre de migrants au cours de la dernière décennie constitue l'une des raisons pour lesquelles cette troisième ville américaine connaît une stagnation démographique. Michel Joseph explique.
Le directeur des ressources humaines, Pete Tapascar, avoue que pendant plusieurs années, trouver des employés pour sa compagnie high-tech relevait d'une véritable gageure à Chicago.
Trouver des gens hautement qualifiés est toujours un défi.
Pour pallier cette lacune, Tapascar recrute à l'étranger. Ainsi, 80% environ de la main-d'œuvre de ProSoft vient d'Asie du Sud. Beaucoup, dont Tapascar lui-même, sont venus à Chicago munis de visas spéciaux appelés H-1Bs.
There is a high demand for the H-1Bs.
La demande pour les H-1B est très forte. Des gens high-tech.
Bien que la demande pour ce genre de visa reste forte, nombre de leurs bénéficiaires préfèrent aller ailleurs qu'à Chicago.
They are slowly moving towards the south.
Cette tendance change lentement et les derniers chiffres montrent que ceux qui arrivent aux États-Unis se rendent progressivement dans le sud, particulièrement au Texas et à Atlanta en Géorgie.
Elizabeth Shu de l'Agence métropolitaine de planification de Chicago.
So what we're seeing right now,
ce que nous voyons maintenant, c'est une baisse substantielle du nombre de migrants ici. Elizabeth Shu est la principale analyste de l'agence qui a étudié les récentes tendances dans le domaine de l'immigration. Avant la récession, nous étions entre 50 et 60 000, la plupart du temps. Maintenant, depuis 2010, nous avons un net se situant entre 23 et 24 000. Pour Elizabeth Shu, cette chute spectaculaire contribue à une croissance démographique stagnante à Chicago, dont la population croît plus lentement que celle des villes similaires telles que Boston, Los Angeles et New York.
The Chicago region was fourth in the country.
De 2005 à 2009, la région de Chicago était quatrième dans le pays grâce au nombre d'immigrés qu'elle attirait. Mais de 2009 à 2014, elle était tombée à la huitième position. Donc, même si on fait un total de toutes ces années, vous pouvez voir une baisse substantielle et les gens aller vers d'autres régions. Selon Tapascar, beaucoup de facteurs expliquent pourquoi les immigrés préfèrent les États du Sud à Chicago.
L'environnement est plus propice aux affaires là-bas. Ça pourrait être des impôts moins lourds et les employeurs reçoivent des gouvernements de ces États beaucoup de bénéfices.
Mais Pete Tapascar est convaincu qu'accroître le nombre des visas de travail pourrait aider à amener de nouveaux immigrés à Chicago et aider sa compagnie à recruter sur place le genre de travailleurs dont elle a besoin.
S'achève cette édition du Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Arbutson. Au micro, Camille Grosdidier, je vous invite à nous retrouver sur Facebook et bien sûr sur notre site internet voafrique.com. Et en attendant, une très bonne journée à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.